Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Donc, une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands personnages qui ont marqué l'histoire du Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Donc, il sera ce soir question d'un grand homme de théâtre, Gratien Gélinas. Gratien Gélinas est né en 1909 et est décédé en 1999. Il a traversé le siècle. Gratien Gélinas, ça a été un comique, un comédien, un auteur, un cinéaste, a été aussi un directeur de théâtre. Il devient la coqueluche des Canadiens français à la fin des années 30, grâce à son personnage, dont vous avez sûrement entendu parler, son personnage de Fridolin. Fridolin, qui est cet adolescent un peu fantasque, un peu naïf, qui ose dire ses quatre vérités aux adultes. Fridolin qu'on découvre d'abord à la radio, et puis qu'on peut voir lors de revues, de 9 revues qui sont produites par Gratien Gélinas de 1938 à 1948, à 1946, donc, des revues qui sont produites par lui et qui permettent de le faire connaître. Ce personnage est beaucoup apprécié. Ces revues ont beaucoup de succès. Mais par la suite, Gratien Gélinas se distingue comme dramaturge. On peut dire que 2 de ses 4 pièces sont devenues de vrais classiques de notre dramaturgie. Je pense bien sûr à Ticoc, mis en scène la première fois en 1948 et porté au grand écran en 1953. Je pense aussi à Bouzeille et les Justes, hein, qu'on peut voir au théâtre pour la première fois en 1959. Alors, ces deux pièces, c'est le condensé de ce qui fera le succès de Gratien Gélinas, c'est-à-dire des pièces qui se passent au Québec, hein, qui ont une couleur canadienne-française par la langue qui est parlée, par les personnages qu'on peut voir, mais qui traitent, on le verra, de thèmes universels qui peuvent toucher tout le monde. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que ces pièces ont été traduites en anglais et jouées un peu partout. Ces pièces aussi sont à la fois comiques, sont à la fois tendres, mais aussi parfois dramatiques et tragiques, surtout dans le cas de Ticoc, par exemple, et aussi dans le cas de Bouzeille et les Justes. Alors, par la suite, ce qui est frappant aussi dans le cas de Gratien Gélinas, c'est qu'il a eu beaucoup d'ambition. Quand on lit sa biographie, on voit qu'il a eu beaucoup d'ambition pour lui, comme artiste, bien sûr, mais il a eu aussi beaucoup d'ambition pour le théâtre de son pays. Il a voulu que les dramaturges du Québec, du Canada français, aient une institution pour jouer, pour se faire connaître, pour se produire. Et c'est pour cette raison qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, il a voulu créer une institution pour eux, la Comédie canadienne, qui va ouvrir ses portes pour la première fois, donc en 1958, une salle tout près d'ici qui contenait 1200 places et qu'il va diriger pendant plusieurs années. Pour nous parler donc de ce personnage hors norme, nous avons invité, c'est la seule fois qu'on fera ça durant cette série, c'est-à-dire nous avons invité un de ses enfants. Gratien Gélinas et sa femme Simone ont eu 6 enfants, 4 sont toujours vivants. Donc, nous avons invité son petit-dernier, son Benjamin, qui donc l'a connu évidemment très bien, comme tous les enfants, on l'espère. Mais si nous l'avons invité, c'est aussi parce qu'il est documentariste, parce qu'il a fait un documentaire en 2009 sur son père, documentaire qui s'intitule « Gratien Gélinas, un géant au pied d'argile », un titre un peu mystérieux, on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc, je vous prie d'accueillir chaleureusement Pascal Gélinas. Bienvenue.
Merci.
Merci, prends place. On a l'impression que les Gélinas, vous êtes un clan tissé serré. Vous avez fait ce documentaire sur votre père en 2009. On a avec nous en salle la biographe de Gratien Gélinas, Mme Anne-Marie Sicotte, qui est aussi une historienne, une romancière, qui a fait un travail absolument remarquable sur son grand-père.
Tout à fait.
Et donc, vous êtes un clan tissé serré. Vous voyez beaucoup, vous parlez encore de ce personnage?
Disons qu'on n'est pas nécessairement une famille qui se voit très souvent, mais on a beaucoup côtoyé notre père dans son travail artistique. C'est-à-dire qu'on l'a peut-être moins connu comme père, comme ce que tous les gens vivent, mais au niveau de... Bon, prenons par exemple Michel... Il a travaillé beaucoup avec Gratien. Il est devenu administrateur de la Comédie canadienne. Il a eu une relation d'affaires avec Gratien très poussée. Yves a fait de la mise en scène plus tard, mais il a travaillé à la Comédie canadienne, à la direction artistique, à la régie, aux éclairages. Mon frère Pierre, justement, dans une des revues qui s'appelle Le Diable à quatre, il faisait les décors, il faisait les accessoires. Mon frère Alain faisait la régie. Et quand il y a eu, par exemple, le film Tic-Toc, ben, on a fait notre entrée au cinéma,
Oui, c'est vrai,
puisqu'on
c'est
était
vrai.
figurant dans le film.
C'est vrai.
Et moi, ben, dans les dernières années de son travail d'auteur, j'ai pu discuter avec lui de l'écriture de ses deux dernières pièces. Donc, il y a eu cet échange au niveau professionnel qui compensait un peu cette absence du père. Et puis, c'est un bagage extraordinaire. C'est vraiment, c'est loin d'être un héritage lourd à porter. Au contraire, ça nous a enrichis. Prenez simplement la Comédie canadienne, par exemple. Ben, moi, j'ai vu toutes les pièces qui ont été créées. J'ai vu les chansonniers, les comédies musicales. Et donc, c'est un bagage incroyable.
Oui. Alors, vous avez raconté quelque part que à 17 ans, vous faites un voyage avec votre père, je crois, en Gaspésie, vous revenez, donc le voyage est long, vous avez du temps, vous êtes en train, et vous lui posez des questions sur sa vie. Et peut-être pour la première fois, il vous parle de lui, il va plus loin que les clichés peut-être habituels, il prend un
Ouais.
peu le temps, vous découvrez des choses étonnantes. Qui permettent d'éclairer peut-être une partie de son œuvre.
Oui, c'est ça. J'avais 17 ans et donc je naviguais avec mon frère Yves sur le fleuve Saint-Laurent. Et Yves, qui est devenu navigateur par la suite, qui a fait un film où il fait le tour du monde en se filmant lui-même. Mais avant ça, on était donc sur le fleuve et Gratien vient nous rejoindre pendant une semaine. Et donc, je retourne avec lui de Mont-Joli à Montréal en train. Et là, j'avais mon père pour moi tout seul pendant cette nuit de train où manifestement on n'avait pas le goût de dormir. Et puis, je lui ai demandé de me raconter sa vie. Et puis, étonnamment, je la connaissais peu, sa vie. Et puis, il m'a raconté, dans le fond, tout son désir de faire un théâtre populaire. Il m'a parlé de Fridolin, de la radio, de la Comédie canadienne. Il m'a parlé de ses années de collège qu'il a tant aimées, alors que nous qui avons été pensionnaires n'avons pas aimé nécessairement ces années-là. Pour lui, c'était une bénédiction parce que, bon, il est né en 1909, comme vous disiez tout à l'heure, à Saint-Tite, dans le comté de Champlain. Et au bout d'un an, la famille déménage à Montréal parce que Mathias, son père, est sellier, mais il y a de plus en plus d'automobiles, donc le métier de sellier.
La
Il perd au
pertinence.
change et donc il devient un habitant des villes. Et entre le grand-père Mathias et Geneva, son épouse, c'est la guerre. Rapidement, c'est deux tempéraments complètement différents. Mathias est un peu Roger Bontemps, c'est un conteur qui a beaucoup de plaisir à raconter des histoires et Geneva est une femme qui veut réussir socialement, qui rêve de posséder une maison. Et ils vont déménager une trentaine de fois. Ils vont habiter dans plusieurs quartiers de Montréal, mais aussi à Saint-Jérôme, à Berthierville, et j'en oublie, là. Ils ont dû. Alors, ce couple-là, finalement, se déclare la guerre assez rapidement. Et les deux enfants, c'est-à-dire Gratien et sa sœur Rolande, sont pris entre les deux. Et pour Gratien, ben, ça, j'apprenais ça cette nuit-là en train. Ben, pour lui, les années de collège, c'était une bénédiction parce qu'il pouvait enfin sortir de cet enfer familial. Pensionnaire, bien sûr, en plus, travailler dans les troupes qu'il y avait au collège. Et j'ai compris aussi cette nuit-là ce que ça voulait dire pour lui un art populaire. Et ça m'est toujours resté, ça, cette volonté qu'il avait de vraiment rejoindre les gens avec une culture qui leur ressemble et qui est un miroir aussi de leur propre réalité. Alors, bien sûr, j'en ai appris beaucoup plus avec le temps. Et vous parliez du clan que nous formons, la famille. Bien, c'est sûr que Anne-Marie Sicotte, qui a écrit une
Oui,
très belle
oui,
biographie sur Gratien,
oui.
je ne sais pas si vous le savez. D'ailleurs, ça, c'est la deuxième édition ici qu'on a, là, qui est maintenant disponible.
Oui,
On est
une bonne brique, un livre de poche.
Oui. Mais c'est un privilège incroyable de pouvoir lire un livre sur sa famille.
Et c'est un travail extrêmement documenté, très,
très
impressionnant.
Très documenté, ouais. Parce qu'on saisit l'époque, mais aussi on saisit l'homme, on saisit son tourment intérieur et on saisit sa démarche artistique. Et beaucoup de choses que nous, les enfants, on avait vécues de façon un peu intuitive, ben disons que là, grâce au travail d'Anne-Marie, ben ça prenait sa place. Il y avait une analyse qui nous permettait de faire les liens.
Quand vous parlez justement de la famille, là, ce que vous avez peut-être pas dit, que vous dites bien dans votre documentaire aussi, c'est que le couple va se séparer. C'est quand même pas rien là, pour un couple des années 20. Puis pour une famille des années 20, le couple va vraiment se séparer et son père disparaît.
Oui, et ça, c'est vraiment un drame que Gratien et sa sœur ont vécu. C'est-à-dire que Geneva doit rapidement travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et vous savez que la loi de l'époque faisait qu'un mari pouvait carrément venir prendre les biens et, oui. et l'argent de sa femme. Et Geneva devient féministe avant l'heure. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ça n'a pas de sens. Et elle demande une séparation légale. Donc, la séparation lui est accordée, mais elle va même plus loin que ça. En 1929, parce qu'il s'agit d'en arriver au divorce et d'obtenir une pension alimentaire, elle accuse son mari d'avoir abusé de sa sœur à elle, Adrienne, qui avait alors 15 ans. Ouais. Au moment des faits allégués qui remontent à plusieurs années auparavant. Et donc, elle accuse Mathias d'avoir mis sa jeune sœur enceinte et ensuite d'avoir organisé secrètement son avortement. Et dans le contre-procès, si on veut, ou la contre-poursuite que Mathias fait, il réfute tous les autres arguments que sa femme a énoncé, mais il ne parle jamais de cette accusation très grave. Et quand vient le moment du procès, Mathias a disparu. Il s'est enfui aux États-Unis.
Pendant quoi, 20 ans?
Oui, pendant 20 ans. Il va revenir de façon épisodique. Au début, il nous est présenté comme un oncle des États. Mais ça explique une chose qui est assez dramatique pour Gratien et sa jeune sœur, c'est que Geneva... Bon, d'une part, parce que, par exemple, louer un appartement quand vous êtes séparés, c'était impensable à l'époque. Et donc, il s'établit ce secret où Geneva demande à ses enfants de dire que leur père est mort. Donc, Gratien, officiellement, est orphelin. Et Gratien, évidemment, qui est un jeune étudiant au collège, qui est passionné par le théâtre et tout ça, qui est un premier de classe aussi, est très réservé avec ses amis. Jamais il va parler de sa famille, jamais il va parler de sa pauvreté, parce que dans le fond, c'est par charité qu'il peut étudier au collège jusqu'au niveau de belles-lettres, au cours classique. Et donc, ce secret va être très lourd et va expliquer que dans les personnages qu'il va créer, ce sont des orphelins, ce sont des laissés pour compte, ce sont des gens qui sont vulnérables.
Qui ont une grande solitude.
Oui, tout à fait.
Il y a beaucoup de solitude dans ces personnages. Si on prend un petit pas de recul, on a ce passionné de théâtre qui est Gratien Gélina, qui est tout jeune. À quoi ressemble l'offre de théâtre, l'offre dramaturgique dans le Montréal des années 20-30? Juste pour nous situer un petit peu en contexte, puis ensuite on pourra... Pour le jeune, est-ce que c'est envisageable pour lui, là, à 15 ans ou 20 ans, de faire carrière, par exemple?
Non, Gratien disait souvent que s'il y avait 5 personnes qui vivaient du théâtre au Québec à ce moment-là, c'était déjà exceptionnel. Et, bon, il y avait le théâtre Stella, il y avait la troupe Barry Duquesne, il y avait du burlesque, il y avait Olivier Guimond, père et fils, il y avait la Poune. Mais disons que les pièces qui étaient présentées ici très peu de temps, quelques jours, une semaine au maximum, venaient soit des États-Unis ou soit étaient importées d'Europe. Donc, on n'avait pas de culture à nous.
C'est du burlesque ou du classique pour une certaine élite. Hein? On a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'entre-deux. Vous avez dit rapidement, votre père était... un personnage un premier de classe. Hein? Oui. Donc, c'est un premier de classe, il devient père de famille. Ce qui m'a beaucoup frappé en lisant sur sa vie, c'est qu'on est à compte. C'est l'antipode de la bohème. Là.
Exactement.
C'est pas un personnage qui vit la bohème, qui prend de la drogue. Non, c'est un personnage qui est très concentré, qui est très discipliné. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une citation d'une lettre. D'une lettre à sa femme, si vous permettez que je vais vous lire, à sa femme qu'il écrit tout jeune en 1934. Donc on est en février 1934. Toujours travailler, toujours lutter, sans répit, toujours sentir sur son dos le poids trop lourd de la responsabilité, ne jamais avoir la permission d'être jeune comme tous les autres. Pourtant, à ce moment-là, il fait du théâtre amateur. Vivre sa vie à côté d'êtres qui vous aiment mais ne vous comprennent pas. Ne jamais sentir l'épaule forte qui vous hisse plus haut, être plutôt l'épaule où s'appuient les autres avec toutes leurs faiblesses. Avoir gagné chacun de ses succès à force de ténacité, de volonté, à coup de persévérance, seul, se sentir seul physiquement devant l'effort et souvent moralement.
Oui, et ça va l'accompagner toute sa vie, ça. Il va d'abord compter sur ses propres forces, bon, mis à part certains collaborateurs qu'il aura ensuite. Mais c'est ça, Gratien, d'abord en pleine crise économique, parce que le procès dont je vous parle, c'est en 1929, il aura sa résolution, le procès en 1931, mais la dépression est commencée, Gratien doit devenir un support de famille.
Donc il travaille chez Dupuis Frères, à la Sauvegarde.
Il travaille dans les toiles et cotons chez Dupuis Frères, il vend la fin de semaine des chaussures et à un moment donné, il entend parler qu'il y a un boulot qui est peut-être disponible à la Sauvegarde.
Une compagnie d'assurance.
Voilà, dont il reste encore une affiche peinte sur un mur au coin de la place Jacques-Cartier.
Ah oui.
Ouais. Et donc, Gratien rencontre ma mère Simone en 1930, qui est une institutrice assez pieuse, assez réservée. Ils veulent se marier éventuellement, mais pour Gratien, c'est impensable de compter sur son métier d'artiste, qui n'est pas un métier à ce moment-là, puisqu'il joue dans les troupes amateurs. Donc, il s'inscrit au HEC pour devenir comptable. Mm-hmm. Parce que là, il se dit, oui, je pourrais me marier avec un vrai job.
Mais il fait ça les soirs, en plus du théâtre, en plus de son travail.
Pendant 4 ans, il suit ses cours à tous les soirs, au lieu d'être une journée, c'est l'équivalent d'une journée, mais le soir. Et il joue dans des troupes amateurs, et le seul soir qui lui reste pour aller fréquenter sa dulcinée, c'est le dimanche soir. Bon, ils finissent par se marier en 1935, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez étonnant qui se passe, c'est la radio qui a commencé. Et la radio permet à des artistes de se faire connaître et d'entrer dans les foyers de tout le Québec. Et c'est la chance qui est donnée à Gratien. Donc, il obtient un rôle, le rôle de Lionel Théberge, dans un radio-roman qui s'appelle « Le curé de village » et qui est réalisé par Robert Choquette. Et Robert Choquette était à la fois l'auteur et le metteur en scène, ou le réalisateur, si on veut, de son émission. Et Gratien le voyait travailler avec énormément de soin, corrigeant jusqu'à la dernière seconde les textes, et écrivant aussi dans une langue vraiment canadienne-française, une langue qui reflétait la réalité des gens d'ici. Alors, ça a sûrement été une influence importante pour Gratien. Donc, Gratien se fait connaître comme comédien. En 1937, on lui propose de diriger une émission qui s'appelle Le Carrousel de la gaieté. Et là, il crée le personnage de Fridolin. C'était une formule d'émission qui était inspirée un peu de ce que Jack Benny faisait à New York, deux, trois personnes autour d'un micro. Et donc, il y avait Lionel Daunet, Albert Cloutier et lui. Et là, le personnage de Fridolin est créé. Et très rapidement, parce que la satire qu'il fait de la réalité et tout ça intéresse les gens, ça a une énorme popularité. Le Théâtre Saint-Denis, d'où c'est diffusé, se remplit à chaque semaine.
Et bien, ça se fait devant public.
Oui, tout à fait. Et il y avait quelques musiciens, puisque Lionel Daunet était dans les variétés lyriques.
Un peu comme à une certaine époque, le Festival de l'humour, ou aujourd'hui l'émission à la semaine prochaine, donc des émissions humoristiques diffusées devant le public.
Exactement.
Et donc, quand ça commence, ce personnage de Fridolin à la radio, vous dites 1937, mais là, il fait le saut. Hein, il quitte son
Tout
travail à
à
la sauvegarde.
Et là, il devient...
C'est important.
Comme artiste, il peut gagner sa vie.
Exactement.
En fait, il triple son salaire à toute fin pratique. Il faisait peut-être 185 $ par mois à la sauvegarde, mais là, il en fait 300-400. Mais c'est tout un travail. Il doit écrire à chaque semaine. Lui, plus jeune, faisait des monologues. Alors là, il doit écrire pour les autres. Et c'est lourd.
C'est une discipline d'écriture.
Oui.
Ça vient vite.
Et il a cette audace en 1938 de dire, ben, je vais faire le saut à la scène, je vais créer une revue qui s'appelle Fridolinon.
Oui.
Et donc, en 1938, il monte cette revue avec Fred Barry et d'autres
comédiens. Qui est son mentor.
Qui est vraiment son mentor.
C'est un personnage qui l'a beaucoup aidé et admiré.
Oui.
Fred Barry, vous pouvez le voir dans le film Ticoc, hein, pour les plus jeunes, c'est le personnage du beau-père, qui aurait pu devenir le beau-père de Ticoc.
Oui, c'est le Rémi
Moi, c'est là que je l'ai découvert.
Hein.
Oui, c'est là que je l'ai découvert, Fred Barry, vraiment. C'est un très grand acteur,
oui.
C'est vrai.
On pourrait le comparer à Jean Duceppe aussi, d'une certaine façon, au niveau du gabarit et tout ça. Et lorsque Gratien était adolescent et allait passer ses étés chez son oncle en Mauricie, un jour, son oncle l'amène à Shawinigan voir la troupe Barry Duquesne. Et il découvre Fred Barry, qui joue dans un mélodrame qui s'appelle Martyr, qui devait être importé d'Europe, je présume. Et là, il est fasciné par cet homme. Et pensons-y, Gratien, qui n'a pas de père à toute fin pratique, ben, en découvre un, admire ce comédien. Et à un moment donné, dans une troupe amateur, il a la chance de l'avoir comme metteur en scène. Bon, donc leur amitié naît d'une certaine façon.
Et ils pouvaient se permettre parfois de dire à Gratien Gégina, là, tu vas trop loin, ça, c'est pas bon, parce que c'était un metteur en scène exigeant. En 38, donc, cette première revue, ça va durer, il y en aura 9 de suite avec un grand succès.
Oui.
Hein, ça va marcher à Montréal ensuite. Parlons un peu du contenu. Les Fridolinades, c'est pas du burlesque, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour.
Oui.
Mais c'est pas du burlesque, c'est pas drôle pour être drôle, c'est pas un pur divertissement. On a l'impression qu'il y a un message, qu'il y a un regard sur la société. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire?
C'est très fin, l'humour des Fridolinades. Et pensons au personnage de Fridolin aussi, qui est là dans presque tous les sketchs. Des fois, Gratien va jouer un autre personnage. Fridolin n'est pas là parce que le sketch est historique, etc. Mais... lorsqu'il y a des changements de décor importants à faire, ben Fridolin passe devant le rideau et là fait des monologues. Et c'est un adolescent qui est un peu laissé pour compte, qui habite le faubourg à Amelas. Et puis,
son chandail du Canadien.
Oui, avec son slingshot, ses culottes courtes.
À l'époque où le Canadien n'était pas encore la légende qu'il allait devenir, non?
Mais voilà. Et donc, c'est le regard d'un adolescent naïf, mais en même temps anti-impérialiste, parce qu'on est à l'époque de la guerre, nationaliste aussi, pacifiste. Et c'est une satire de la société où la bigoterie, par exemple, est mise en scène, où l'Église catholique est critiquée, les politiciens...
La vie politique,
oui. Et la police, par exemple, on peut se permettre de rire de la police... C'est, comment dire, il réussit à ce moment-là à donner aux Québécois un reflet d'eux-mêmes, ce qui n'avait jamais été fait, parce que un sketch qu'on verrait au cabaret de burlesque, comme vous disiez, va faire rire. Mais là, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est que ça fait rire à partir de ce qu'on est. Par exemple, les femmes travaillent dans les usines de munitions, ça a des conséquences sur la famille. En même temps, ça fait l'affaire du système. Alors, tout ça est mis en scène dans les revues. Et c'est difficile à décrire, mais je vous dirais qu'il y a cette anthologie ici que Anne-Marie Sicotte a préparée récemment. Et je me suis permis de la lire cette semaine et j'ai pas pu m'arrêter. c'est vraiment très intéressant. C'est un humour qui est savoureux.
Alors, après sa 9e revue, en 1946, il prend une décision qui n'était pas une décision qui allait de soi. Il décide de ne pas faire d'autres revues et de se consacrer à l'écriture d'une pièce de théâtre.
Oui. Et si vous me permettez, Éric, de mentionner ceci, c'est que les revues sont faites pendant la guerre.
Oui.
Les revues critiquent différents aspects qui ont trait à la guerre. Donc, les censeurs du gouvernement surveillent ça de très près. Oui. Et c'est très dangereux de critiquer.
D'ailleurs, Anne-Marie Scott cite un extrait de lettre d'un censeur qui a été assisté à une pièce et dit... Ça passe, mais il est un peu baveux sur tel aspect. Mais
c'est ça.
Il fait ses commentaires.
Ouais. Et le censeur finit par dire, ben, c'est très drôle.
Oui, oui,
et
c'est
allons-y
ça.
Allons-y avec ça. Donc, Gratien doit quand même fournir, il fait un spectacle en 1941 pour soutenir l'effort de guerre. Ouais. En 1945, il fait une espèce de publicité pour les bons de la victoire. Ouais. Mais... Justement, les deux dernières revues, 1945, il y a ce sketch qui s'appelle « Le départ du conscrit ». Et Gratien personnifie ce conscrit qui part pour Halifax pour s'en aller de l'autre bord et puis qui entre dans un restaurant, qui discute avec la serveuse. Et on sent toute cette amertume du Canadien français qui est utilisée, dans le fond, comme chair à canon pour défendre le Dominion. Ça a beaucoup de succès. Et donc, en 1946, Gratien revient avec ce personnage, et là, c'est le retour du conscrit. Et on découvre que ce conscrit est orphelin, que la blonde qu'il a eue avant de partir ne l'a pas attendu et a marié quelqu'un d'autre. Et le succès, la réception de ça est telle que Gratien, en discutant avec ses proches, comme il le faisait pendant des heures et des heures pour chaque création qu'il faisait, se dit, ben oui, là j'ai un sujet de pièce, et il se lance dans l'écriture de cette pièce. Ça lui prend un an, à toute fin pratique.
Parce qu'il n'avait pas l'écriture facile. Là.
Non, il écrit très lentement, il écrit, c'est pas un Marcel Dubé qui pouvait écrire une pièce en 2-3 mois, mais évidemment le résultat en valait la peine. Et donc ça donne Ticoc, cet orphelin, qui s'attire immédiatement la sympathie du public parce qu'il est interprété par son auteur. Son auteur, inconsciemment, se sent orphelin aussi, sûrement. Et puis, c'est une pièce qui soulève des réalités assez cruelles qui se vivaient au Québec. Par exemple, il y avait beaucoup d'orphelinats au Québec, et les filles-mères, ces femmes qui tombaient enceintes, devaient les confier à l'orphelinat, où on trouvait souvent jusqu'à 700 enfants dans un seul orphelinat. Et aussi, c'est une pièce qui aborde ce tabou. Est-ce qu'une femme peut quitter son mari pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime?
Donc, l'amour, la famille, le dilemme entre les deux.
Oui, et la morale très rigide de l'époque.
Et c'est une pièce tragique au sens où il ne peut pas y avoir de happy ending. Il ne peut pas y avoir de belle fin. Parce que si là, sa femme... Elle rompt avec sa famille, et s'il n'a pas sa femme, évidemment, il est malheureux de ne pas avoir... Bon. Donc, moi, ça m'avait beaucoup frappé, le tragique de cette pièce.
Et puis, c'est une pièce qui a beaucoup touché les gens, parce que, pensons-y, on est en 1948, qui n'a pas eu dans sa famille un frère, un oncle, un père qui revenait de la guerre, qui se sentait carrément laissé pour compte? C'est une réalité... Donc, la pièce...
Un énorme succès.
Un énorme succès. Et on peut dire que c'est la première véritable pièce canadienne-française. Il y avait eu des pièces écrites ici avant, mais souvent, c'est des pièces qui imitaient un peu le répertoire français. On parlait bien. Alors que là, il décide vraiment de prendre le langage des gens. Et lorsque la pièce obtient, se rend à 100 représentations, ce qui était exceptionnel, bon, là, on fait une grande cérémonie où on lui remet une plaque. Maurice Duplessis est là, Camillien Houde, le maire de Montréal. Il y a aussi Monseigneur Charbonneau. Charbonneau est le chef, donc les deux sont là. Il y a le chanoine Groux qui a donné son nom à la fondation Lionel Groux qui est présent. Donc, tout le gratin de Montréal... le récompense d'une certaine façon. Et lorsqu'on est rendu à la 150e représentation, là, ce sont les étudiants de l'Université de Montréal qui demandent à leur université de décerner à Gratien un doctorat honoris causa. Mm. Et ça n'avait jamais été fait pour un artiste. Habituellement, on décernait un doctorat honoris causa à un financier très riche qui donnait de l'argent à l'université.
Ça n'a pas tellement changé, d'ailleurs.
Alors, voici que Gratien a cette distinction qui, pour la première fois, est donnée à un artiste et il en aura 13 dans toute sa vie de doctorat comme ça.
Une chose qui m'a frappé, disons, le parcours peut-être de ce que sont devenus souvent les artistes qui ont eu du succès québécois à l'étranger ou canadiens français, c'est d'abord la France. Une fois qu'on a du succès ici, on se tourne vers la France et puis peut-être qu'après, on va vers les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de Gratien Gélinas. Il fait traduire sa pièce et assez rapidement, c'est au Canada anglais et même aux États-Unis qu'il veut percer.
Il a pensé essayer de produire soit une revue ou la pièce Ticoque en France, mais bon, il se rend compte que ça ne sera pas vraiment une bonne idée. Aussi, ces quelques notions d'art dramatique, si on veut, il les a prises aux États-Unis.
Malgré l'influence de Marcel Pagnol, vous dites.
Oui. Pagnol était... il admirait beaucoup Pagnol parce que Pagnol mélangeait le comique et le drame d'une façon assez magnifique.
Absolument, oui.
Donc, c'est ça, ces influences peuvent peut-être provenir de Pagnol, mais si on veut, ses intérêts...